Dans cette séquence, nous allons analyser une certaine diversité des systèmes de ville dans le monde que nous allons rattacher très largement à l'histoire du peuplement, en distinguant les systèmes de l'Ancien Monde qui ont des villes partout dans leur territoire et souvent de plus petites villes, les systèmes du Nouveau Monde qui sont davantage concentrés avec davantage de grandes villes plus espacées, et puis les pays qui ont été colonisés et où l'on observe une dualité des réseaux entre les marchés locaux ayant émergé spontanément et un réseau de grandes villes extraverties qui a été apporté par le colonisateur. Donc, les systèmes de peuplement anciens se caractérisent par une émergence précoce de leur ville, par une continuité de l'évolution et ce qui donne lieu à des espacements en général assez rapprochés, de l'ordre de 10 à 15 km séparent deux villes de plus de 10 000 habitants. Nous avons également beaucoup de petites villes et une croissance qui est intervenue du fait d'interactions nombreuses et longues dans toutes les parties du territoire, avec sur le temps long une persistance des trames urbaines que l'on peut lire facilement ici sur ces images qui montrent à 50 ou 100 ans d'intervalle le semis des villes en Europe et en Inde, représenté avec des cercles proportionnels et qui montrent à quel point les principaux points, les nœuds importants de la trame sont préservés par cette évolution qui semble développer de façon homothétique et dans toutes les parties du territoire le système des villes. En fait, si l'on représente l'insertion de villes nouvelles ici en rouge à chaque date dans le système des villes européennes, on observe que ce remplissage a été effectivement progressif et très distribué sur l'ensemble du territoire. Au contraire, dans les systèmes de peuplement récents, nous avons des créations de villes qui s'effectuent au fur et à mesure du peuplement de ces territoires, donc sur des fronts pionniers. Assez souvent, ces villes du Nouveau Monde se sont installées en même temps que les chemins de fer, et donc on constate un espacement beaucoup plus large, de l'ordre de 40 à 80 km entre les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Et le remplissage du territoire s'est effectué par vagues de croissance qui donc ont colonisé progressivement les différentes régions, tandis que dès que les villes sont installées, elles évoluent d'une manière qu'on va dire normale, comme celle des zones de peuplement anciens. Nous avons ici l'exemple de la trame urbaine aux États-Unis, identifié par Anne Bretagnol à différents moments. Et vous le voyez, les premières époques montrent un peuplement dans la partie orientale, à proximité de la connexion avec les liaisons maritimes qui ont peuplé les États-Unis. Et puis, une installation secondaire commence à l'ouest. Elle est présente dans les années 30, à partir de Los Angeles et San Francisco. Et nous avons ensuite beaucoup de développement également dans le sud des États-Unis. Mais le système commence à évoluer comme un système ancien. Les systèmes de villes qui ont été perturbés par une colonisation se caractérise dans la mesure où ces pays ont connu des retards de développement par un taux d'urbanisation plus faible. On a également des grandes villes qui sont celles qui ont servi de pont d'interface entre le système local et les réseaux externes, donc une grande dimension en général de la plus grande ville liée à cet effet de la colonisation, ou de plusieurs grandes villes, on parle alors de macrocéphalie plutôt que de primatie. Les réseaux urbains ont donc cette dualité d'implantation entre des petits marchés locaux et les villes qui sont d'emblée des relais des réseaux extérieurs. Bien sûr, d'un pays à l'autre, on constate malgré tout une assez grande variété dans les formes, mais les évolutions sont-elles assez semblables? en ce sens qu'elles apparaissent comme périphériques par rapport aux pays industrialisés, aux pays plus précocement développés et urbanisés. En fait, il ne s'agit pas d'un simple décalage temporel dans ce processus qu'on appelle de la transition urbaine, par analogie avec celui de la transition démographique, qui modifie donc le régime des populations en termes de natalité, fécondité et mortalité dans le cas de la transition démographique, en termes de peuplement, surtout villageois, rural ou surtout urbain et rural dans le cas de la transition urbaine. Vous le voyez ici, quand on distingue sur le graphique les courbes du taux d'urbanisation, de la proportion de population urbaine, entre les pays développés en bleu et les pays en développement en rouge, on a d'une part un démarrage beaucoup plus tardif de la courbe des pays en développement. Elle décolle surtout à partir des années 1950 et elle monte beaucoup plus vite parce que cette transition démographique qui intervient en même temps que la transition urbaine provoque des accroissements de population beaucoup plus considérables, de l'ordre de 4 à 5% par an de croissance de population urbaine, alors qu'on avait seulement 1 à 2% au moment du 19e siècle, du développement urbain, où les villes étaient encore des mangeuses d'hommes du fait de l'importance de la mortalité qu'on pouvait y observer. Donc, il faut prendre garde que même si, par exemple, ici en Inde, sur la période 1901-2001, on semble avoir une persistance de trames urbaines, ça n'a pas toujours été le cas. Aux périodes antérieures, la localisation des principales villes indiennes était beaucoup plus centrale, autour de capitales, de territoires, de royaumes locaux, Agra, Ahmedabad, Hyderabad par exemple. Et c'est seulement à l'occasion de la colonisation par l'Empire britannique que ce sont des villes en position littorale qui sont devenues les plus grandes, avec Bombay, devenue Mumbai, Calcutta, Madras. Et Delhi est la seule ville qui aujourd'hui est encore importante et existait auparavant, avant l'implantation de l'Empire britannique, qui a malgré tout, qui l'a gonflé en y installant sa capitale New Delhi. Nous avons en revanche des similitudes, vous le voyez, d'installation de peuplement progressive sur le territoire de l'Afrique du Sud. Nous avons gardé l'image des États-Unis en haut pour en montrer les similitudes. Nous avons là un peuplement qui s'est implanté d'abord au Cap, puis à Durban, dans des ports, et qui, au moment de la découverte des diamants et de l'or dans le centre du pays, a progressivement gonflé les villes autour de la région de Johannesburg. À l'échelle mondiale, nous avons actuellement une répartition des villes qui demeure extrêmement contrastée, avec des densités très fortes dans les continents les plus anciennement urbanisés, Europe et Asie, mais des très grandes villes qui ont émergé dans les pays neufs, en Amérique du Nord et du Sud, et qui aujourd'hui vont se développer beaucoup plus encore dans les pays, les grands pays en cours de transition urbaine, notamment de l'Inde et de la Chine. En fait, nous avons une évolution, une croissance qui, depuis plus de 200 ans, est relativement continue de la population des villes. Et surtout, ces villes se transforment qualitativement parce que ce sont des adaptateurs de la société sous tous ses aspects politiques, économiques, technologiques, sociaux. Et comme elles le font en concurrence les unes avec les autres au sein des territoires, eh bien, nous verrons que c'est cela qui explique l'émergence progressive des hiérarchies et l'accroissement des inégalités entre les centres. Il faut savoir que cette dynamique des villes, en concurrence les unes avec les autres, pour offrir davantage de services, d'aménités et garder leur dynamique de croissance, avait été perçue dès le XVIe siècle par un spécialiste de la raison d'État, Giovanni Botero, qui a travaillé pour les papes et qui analysait dans un petit ouvrage très savoureux les causes de la grandeur et de la magnificence des villes. Nous appelons aujourd'hui enchaînement historique, ce que les anglo-saxons dénomment past dependence, cet effet de persistance des trames urbaines dans les systèmes de ville qui s'explique à la fois par l'universalité de la transition urbaine qui fait que nous avons désormais plus de la moitié de la population qui vit en ville et à la fin de ce siècle la totalité, enfin au moins 80% dans toutes les parties du monde. Et sous l'effet d'une croissance urbaine qui s'est distribuée, c'est-à-dire répartie entre tous les centres, d'abord par des interactions de faible portée, de l'ordre de portée régionale, puis nationale, et qui sont aujourd'hui des interactions de portée mondiale. En fait, nous allons observer cet effet d'enchaînement historique dans le cas de l'Europe, en distinguant des constructions territoriales qui ont engendré des variantes de ce système de ville ancien et distribué que nous avons partout en Europe, mais qui va montrer des particularités selon que les territoires correspondaient à de grands royaumes, donnant lieu à des systèmes plus hiérarchisés, ou bien des ensembles de principautés qui sont restés longtemps en concurrence avant les unifications territoriales et qui ont produit des hiérarchies moins inégalitaires, ou bien des colonisations plus tardives qui ont engendré des trames plus régulières. Ces trois styles des systèmes de villes en Europe ont été mis en évidence par Céline Rosenblatt, qui a eu l'idée tout simplement de rejoindre sur une carte de la trame des agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants, eh bien, les villes par un segment si elles étaient situées à moins de 25 km les unes des autres. Et nous repérons donc ici une dorsale européenne constituée de fortes densités de villes en Angleterre, en Allemagne, en Italie, les deux derniers États étant été unifiés plus tardivement et ayant connu davantage de concurrence urbaine, d'où cette plus forte densité. Alors qu'en Angleterre, on a un semis de villes industrielles qui est venu combler les vides dans les régions minières, notamment du centre de l'Angleterre, pour donner également lieu à une très forte densité de villes. Sinon, l'Angleterre était pendant longtemps un régime administratif aussi centralisé que l'étaient la France et l'Espagne, qui, vous le voyez, ont donné lieu à des contrastes entre les zones capitales qui concentrent beaucoup de villes et des relatifs déserts urbains dans les régions intermédiaires. On voit que ces systèmes de villes ont une cohérence extrêmement forte spatialement, car si on change l'étalon de distance et qu'on le monte ici entre 25 et 50 km, on retrouve exactement l'organisation en trois styles de peuplement, le troisième étant maintenant plus visible. Il s'agit en fait des régions situées en Europe orientale, qui ont été colonisées plus tardivement sous forme de villes, souvent par des défrichements suivis d'implantations de congrégations religieuses. Et comme ce développement se faisait plus tardivement et d'une manière relativement planifiée, eh bien, les villes y sont toujours plus régulièrement espacées que dans les deux autres domaines européens. Et si nous modifions cette fois-ci non seulement l'étalon de distance qui se monte à 100 ou 150 km, mais le niveau d'observation de la trame urbaine en considérant les agglomérations de plus de 100 000 habitants et non plus seulement les plus de 10 000, nous voyons que nous maintenons ces trois styles de peuplement. Nous avons donc toute une organisation urbaine et territoriale qui ici est parfaitement cohérente et qui présente ses variantes à travers le type, par ailleurs relativement homogène, d'urbanisation du continent européen. Alors, qu'en est-il dans les continents où l'urbanisation s'est considérablement accélérée avec une transition urbaine plus tardive, comme on le voit dans cette construction de Shanghai accélérée sur la rive de Pudong? Eh bien, ne soyons pas surpris, ici aussi, nous pouvons observer, pour conclure, une persistance, une forte résilience donc de ces systèmes de villes, puisque les 30 plus grandes villes chinoises cartographiées ici par Elfyssfert sont en fait des lieux, des noyaux forts de la trame urbaine chinoise, souvent depuis très très longtemps et plusieurs siècles.